Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Et Valérie Expert, vous la retrouverez lundi évidemment. Et merci Valérie pour les conseils livres pour cet été. Des conseils que vous retrouvez aussi bien sûr sur nos réseaux sociaux. Parlons vrai jusqu'avec midi avec vous au 0826 300 300. Vous nous appelez, vous réagissez également sur les réseaux sociaux. On est en compagnie ce matin avec Jacques Miard. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Maire LR de Maison Lafitte, Jérôme Dubu. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Membre de La République En Marche, Jean-Luc Benamias, qui est avec nous aussi. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Membre de la Ligue des Droits de l'Homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Michel Thau. Bonjour Michel.
Bonjour, bonjour à tous.
Fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. On va ce matin évoquer avec vous, et vous nous appelez, vous réagissez sur les réseaux sociaux, bien sûr, on va parler politique et ce deuxième tour des élections régionales. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une remobilisation des électeurs pour dimanche, en sachant que c'est notre dernier jour pour ceux qui veulent faire les procurations. Ce soir, à minuit, il sera trop tard, et la Poste s'est engagée également à envoyer les professions de foi, une distribution qui aura même lieu encore demain. Question aussi qu'on se posera ensemble, le Rassemblement national peut-il gagner en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Et puis on s'intéressera aussi à ce qui pourrait nous gâcher l'été, c'est le variant Delta, c'est une inquiétude que l'on a aujourd'hui, et on y reviendra avec vous également, mais on va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors si vous permettez messieurs, je vais commencer par un coup de gueule. C'est un papier du Parisien ce matin qui a attiré mon attention sur les arnaques au chômage partiel dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Alors je trouve ça un petit peu dommage. Effectivement, il y a des témoignages de salariés du secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui explique avoir été payé avec les deniers publics, avec donc cette mesure de chômage partiel, alors que les entreprises dans lesquelles ils sont employés bénéficient de fonctionnement et qui ont des revenus tout à fait classiques et des recettes tout à fait normales. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y a un véritable problème, avec aussi des services de l'État qui ne sont pas assez fournis pour pouvoir effectuer des contrôles. Donc voilà comment on peut détourner facilement des aides de l'État. Je vous conseille la lecture, hein, cette fraude au chômage partiel, la colère des salariés de la restauration. Et puis perso, mon petit coup de cœur, c'est le retour demain du Tour de France, après une édition l'an dernier qui avait été chahutée. Et n'en déplaise aux grincheux, c'est une édition et c'est une compétition tellement populaire que les gens aiment tellement que j'ai hâte de le voir passer du côté de mes Pyrénées chéries. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Luc? Vous vouliez réagir sur le Tour de France?
Non, je m'excuse, j'ai eu un arrêt de connexion. Ah, donc je ne vous ai pas entendu.
Non, je parlais du Tour de France. Je sais que du côté de il y a des écologistes qui n'aiment pas le Tour de France. Ouais, non, je rigole.
Ah, non, mais merci. Je suis un écologiste qui adore le Tour de France. Moi, donc, et qui connaît même les résultats par cœur depuis au moins Louison Bobet, si ce n'est Photocopie.
C'est pour ça, Jean-Luc, que vous êtes minoritaire parmi les écologistes.
Oui, mais il est dans la vérité.
Il est de Lyon,
peut-être minoritaire, mais il est dans la vérité.
Pardon, Jacques.
Il est minoritaire, mais il est dans la vérité. Je sors mon revolver.
Alors.
Voilà, bon. C'est une très belle. J'attends le Tour de France comme chaque année, comme le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne d'ailleurs.
Ouais, voilà, donc ça part demain et c'est parti pour 3 semaines, et je peux vous assurer qu'il y aura du monde au bord des routes. L'an dernier, les fans et les supporters étaient, pour avoir suivi le Tour de France décalé au mois de septembre, ça n'avait pas vraiment tout à fait la même saveur populaire, je dirais. On continue les coups de cœur et les coups de gueule avec vous. Jérôme, coup de cœur pour le Liban qui souffre.
Oui, alors c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule, parce que le coup de cœur à la population libanaise qui a complètement, ces problèmes sont toujours prégnants et de plus en plus en matière de crise économique et sociale, le Liban n'en parle plus. Ça a complètement disparu des radars, les médias s'en fichent complètement, les autres gouvernements ne s'en fichent également. Depuis que Macron est allé là-bas, à la suite de cette terrible catastrophe qui a eu lieu l'été dernier, eh bien, on n'en parle absolument plus. Alors, je me demande s'il ne va pas falloir une nouvelle catastrophe pour qu'on prenne en compte ce qui se passe au Liban. Je rappelle quand même qu'il y a 40% de chômeurs, qu'il y a une inflation de 400% sur les produits alimentaires, qu'il y a environ aujourd'hui 55% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Quand on sait ce qu'était le Liban il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est tout de même absolument invraisemblable. Il n'y a plus de gouvernement depuis des mois. Depuis le début de l'année, il n'y a plus de gouvernement. Donc c'est l'administration qui gère les affaires courantes, mais il n'y a plus de pouvoir politique et c'est un pays qui rentre dans une débandade absolue. Or, le Liban est un pays riche à l'origine, sa population a un niveau élevé de connaissances et de formation, et tout ceci fait l'objet d'un gâchis monumental, un, parce que le pouvoir politique et les formations politiques sont totalement corrompues et incapables de gérer ce pays, et deux, parce que les autres pays, le mouvement international, laisse ce pays à l'abandon. Et donc c'est à la fois un coup de cœur pour le peuple libanais et un coup de gueule vis-à-vis des dirigeants libanais qui sont incapables de redresser la situation. Et
alors, moi j'aimerais si un peu compléter,
Michel.
Pour compléter le propos de Jérôme auquel je souscris totalement, il y a notamment une jeunesse libanaise très nombreuse en France qui est presque exilée, j'ai envie de dire, parce que en fait, avant, ils circulaient librement entre le Liban et la France, mais là, vu la situation politique et la corruption qui règne au Liban, beaucoup de jeunes Libanais sont installés notamment en France et la France est un peu une terre de refuge. Mais j'aimerais juste compléter en disant, il y a eu la semaine dernière une conférence internationale organisée par la France, dont effectivement les médias n'ont pas du tout parlé, et qui portait sur une aide à l'armée libanaise, et organisée par la France. Parce qu'il se dit notamment que l'Arabie saoudite a lâché, en fait, quasiment lâché, le Liban en termes de soutien financier. Et je me suis beaucoup interrogé pourquoi la France, qui essaye de à la fois soutenir le peuple libanais et d'être dans une sorte de bras de fer avec les dirigeants libanais, organisait cette conférence pour soutenir l'armée libanaise, qui est quand même, excusez-moi, mais fait partie aussi des nœuds du problème. En tout cas, la France est très active, il faut s'en féliciter, même si parfois... on se sent extrêmement seul dans ce soutien international.
Jacques, rapidement.
Oui, je voudrais rapidement dire un mot, parce que moi-même, dans les années 84-85, lorsque j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'avais été envoyé au Liban pour essayer de museler l'armée libanaise. Peine perdue, la guerre civile était là. Bon. Ce qui est certain, c'est que le Liban ne se sauvera pas si on ne retrouve pas un règlement global autour du Liban. Parce que ce qui s'est passé en Syrie a directement, bien sûr, influencé la situation interne du Liban. Je parle sur le plan des réfugiés. Ensuite, effectivement, l'Arabie saoudite a joué un drôle de jeu. Donc, tout ça est un problème qui doit être réglé globalement. Et on ne sauvera pas le Liban si on ne trouve pas un règlement au Proche-Orient, en Syrie, en Irak et aujourd'hui Daesh. Et là, à nouveau, et ça, c'est un problème majeur.
Voilà, donc le Liban ne se sauvera pas tout seul et on a tous intérêt à régler le problème. On y reviendra dans un instant. Petite précision, hein, on craint une coupure générale d'électricité faute de carburant au Liban. Voilà l'état du pays aujourd'hui. On va s'arrêter, nous, un court instant et on se retrouve avec toujours les coups de gueule et les coups de cœur de l'actualité de nos débatteurs du jour. Et on se retrouve juste après les infos de 11h. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Et les prochaines infos tout à l'heure à midi. Pour l'instant, vous nous appelez 0826 300 300 et vous venez débattre avec nous. On va parler dans un instant de la remobilisation. Est-elle possible pour le second tour des régionales? On va s'intéresser aussi au vote en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région Sud. Est-ce que le Rassemblement national peut gagner? Et surtout aussi ce variant Delta. Est-ce qu'il est en passe de nous gâcher l'été avec cette alerte lancée du côté du département des Landes? Ce matin, on est avec Jacques Myard, maire LR de Maison Lafitte, Jérôme Dubu, membre de La République En Marche, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des Droits de l'Homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Michel, vous vouliez revenir et dire un petit commentaire sur la situation au Liban.
Non, sur le Liban, j'avais fait mon commentaire. Je pense effectivement que le Liban, c'est un peu une partie de nous-mêmes et que là encore, la France, comme au Sahel, on est très seul à essayer de soutenir des partenaires historiques et que fondamentalement seul, on n'y arrivera pas.
Voilà. Alors, Jean-Luc, on revient à la politique franco-française. Vous aviez un coup de gueule contre l'expression « ennemi de la République » utilisée contre la France insoumise sur les réseaux sociaux.
Pas uniquement contre la France insoumise. Un coup de gueule sur la façon dont on débat dans ce pays depuis maintenant quelques mois et entre les deux tours de ces élections régionales et départementales. Traiter près de plusieurs millions de Français comme des ennemis de la République me paraît totalement insensé. J'irai même plus loin. Bien sûr que par rapport à la France insoumise et par rapport à Jean-Luc Mélenchon, ça me paraît insensé. Par rapport aux accords passés en Île-de-France à gauche, ça me paraît insensé. Il me paraît tout aussi insensé, au moins tout autant, de penser que les X% qui votent pour le Front National ou le Rassemblement National seraient considérés comme des ennemis de la République. Il existe bien évidemment, notamment dans les candidatures du Rassemblement National, quelques fascistes et quelques nazillons. Mais l'ensemble des électeurs, traiter l'ensemble des électeurs, que ce soit ceux de la France insoumise, d'une partie de la gauche, d'une partie de l'extrême gauche et d'une partie de la droite ou de l'extrême droite, comme des ennemis de la République, me paraît totalement déplorable, insensé, et pousser ce pays à être dans une division maximum, alors que justement, on en parlera juste après, à peine 35% de nos concitoyens sont allés voter. Donc j'appelle par rapport à cela, à ce qu'il y ait à se calmer, à penser que les débats politiques peuvent exister et à faire que notre République française, elle a le droit de changer notre République. La Ve République, de mon point de vue, est en train de possiblement, petitement, agoniser. En tous les cas, elle ne répond plus, ça se voit avec l'abstention, elle ne répond plus à l'attente de nos concitoyens. Quant à traiter plusieurs millions de personnes d'ennemis de la République, je le redis, c'est insensé.
Qui veut...
Mais il a raison.
Mais oui, Jacques Mier.
Moi, je suis assez d'accord. Excuse-moi, Michel. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Luc et je veux dire pourquoi. Parce que vous êtes rapidement traité d'extrémiste d'un côté comme de l'autre et donc cela attise, je dirais, une volonté de mettre hors jeu un adversaire politique. C'est une vieille technique, mais cela a des conséquences. Je suis assez d'accord, c'est que tant du côté de la droite que du côté de la gauche, il n'y a pas des ennemis de la République, ça ne tient pas la route, et ce sont des gens qui très souvent partagent le patriote, mais qui ont des choix politiques qui ne sont pas les miens. Donc je crois qu'il faut ramener un peu, non seulement ramener, mais obliger un certain nombre de commentateurs, y compris de politiques, à avoir un langage beaucoup plus équilibré. Cela ramènerait un peu de paix civile. Cela ne signifie pas qu'il
mais comment
pas
on a glissé
avoir...
comment Jacques on a glissé doucement mais sûrement sur on va dire ces
diatribes. Parce que c'est une technique de disqualifier l'adversaire. Ça dure depuis un certain nombre de gens et il est vrai que tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, il y a eu des maladresses où ils sont tombés dans le panneau. Donc c'est ça le problème. Et il faut ramener un peu de raison et cesser de dire que ce sont des extrémistes hors la loi. Ce qui ne signifie pas qu'il ne puisse pas y avoir à droite comme à gauche et même parfois au centre des propos inadmissibles qu'il faut condamner, notamment la xénophobie.
Valérie Pécresse aussi utilise cette. Enfin, par exemple.
Oui, mais je voudrais intervenir sur ce qu'a dit
Jérôme
tout à l'heure, Jean-Luc. Je nuancerai un peu son propos. Il ne s'agit pas d'exclure des millions d'électeurs sous prétexte qu'ils ont voté la France insoumise ou le Rassemblement national. Il s'agit de voir qui sont les dirigeants et qui sont les candidats qui sont sur ces listes. Moi, quand je regarde la liste de la gauche unie à Paris, je suis stupéfait de voir un certain nombre de candidats. Je pense notamment à M. Paul Vannier, qui est candidat de la France insoumise, qui est numéro 3, donc il va être élu dimanche soir, quoi qu'il arrive. Même si la gauche est battue, ce que je souhaite dimanche soir en Ile-de-France, eh bien, c'est clair que ce monsieur Paul Vannier n'est pas dans les valeurs de la République. Je pourrais prendre d'autres exemples.
Pourquoi c'est qui Paul Vannier ? Excusez-moi de mon
ignorance. Ouais, peut-être, Jérôme, vous peut-être préciser aussi pour les auditeurs qui ne sont pas des électeurs d'Ile-de-France.
Il y a des candidats sur ces listes. Et je pourrais en dire de même sur le Rassemblement, les listes du Rassemblement national. Qui ne sont pas dans les valeurs de la République. Ça n'empêche pas que les électeurs qui votent en toute conscience et en toute bonne volonté pour ces deux partis, pour la gauche unie avec la France insoumise, ne sont pas des ennemis de la République. Mais il n'empêche que sur ces listes, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs de société que les miennes. C'est tout.
Jérôme, voilà. Jérôme, excuse-moi, Jérôme, sur la liste de Valérie Pécresse, si tu regardes bien, tu trouveras malheureusement exactement la même chose si tu prends les gens un par un, les personnes
mais
une
non.
par
oh,
une.
Non, non, Jean-Luc.
Mais bien sûr que oui.
Non, non, Jean-Luc. Mais moi, est-ce que je pourrais dire, Jean-Luc, qui a traité les électeurs des Insoumis d'ennemis de la République? Je suis désolé, moi, j'ai pas vu, à part...
Valérie Pécresse, par exemple, là, entre les deux, entre les non, deux tours, là.
Non, mais les électeurs, parce que le problème, évidemment, les électeurs que un jour.
Ah, Michel, on a un petit souci de liaison.
Oui,
les électeurs. Pas les électeurs.
Évidemment, lorsque Bernard Tapie, il y a 20 ans ou 30 ans, disait les électeurs du Front National sont tous des salauds parce que Le Pen est un salaud, il avait tort. Et moi, personnellement, je ne pense pas que les électeurs des Insoumis soient des salauds ou des ennemis de la République. Beaucoup d'entre eux portent en eux une colère sociale.
Mais est-ce qu'il ne faut pas trouver un autre argument? Parce que est-ce que vous pensez sincèrement, vu, on va parler de ça dans un instant aussi, de la faiblesse de la participation, que c'est un argument aujourd'hui qui pousse les électeurs à aller massivement dans les urnes? Est-ce que ça suffit aujourd'hui de se contenter de ce genre de discours?
Il y a d'autres facteurs en abstention.
Oui, mais est-ce que ça s'en rajoute pas un peu quand même?
Oui, bon. Non, moi je pense qu'il faut éviter de faire des amalgames. Je suis prêt à admettre qu'il y ait sur une liste un tel et un tel qui a tenu des propos absolument ignobles et qu'on va condamner et qui ne sont pas les nôtres. Mais attention, parce que c'est une vieille technique de mettre l'adversaire hors jeu en disant ce sont des extrémistes, ils ne sont pas des républicains et autres. Là, il faut quand même raison garder.
Voilà. Allez, on va s'arrêter un court instant et on va faire... justement, Jacques, c'est vous qui aurez la parole au retour de la pause avec votre coup de gueule. On continue dans la politique hein, parce que vous voulez nous parler de ces engueulades entre ministres. Qu'est-ce que ça dit du gouvernement aujourd'hui et de la suite des échéances après les élections régionales et le deuxième tour des régionales et des départementales? À tout de suite sur Sud Radio, il est 11h12.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Allez, vous nous appelez, parlons vrai sur Sud Radio 0826 300 300, et même si aujourd'hui on est tous à distance les uns des autres, eh bien le débat continue pendant la pause publicitaire. On en était à parler des ennemis de la République avec vous quatre, hein, Jacques Myard, Jérôme Dubu, Jean-Luc Benyamias et Michel Taube. Michel, juste un mot, vous vouliez revenir sur ce coup de gueule de Jean-Luc sur l'utilisation de ce terme à chaque fois qu'il y a, électorale quelque part, ouais.
Ouais, moi, ce qui me paraît quand même utile dans le climat actuel, c'est qu'on prenne conscience que la candidature, certaines candidatures dites d'union de la gauche et qui est en fait une prise d'otage de la gauche, on va dire démocrate, par l'extrême gauche des Insoumis et quelques écolos radicaux, c'est que l'on prenne conscience qu'il y a là un pôle d'extrémistes, non pas ces quelques-uns isolés. C'est une idéologie, c'est une politique, c'est une doctrine. On commence à le voir dans certaines grandes villes françaises qui ont gagné par défaut et grâce à l'abstention massive des municipales de 2019. Et si jamais une région comme l'Île-de-France tombe dans l'escarcelle des Insoumis et des verts pastèques, c'est-à-dire surtout rouges, eh ben c'est ça qui, moi, m'inquiète le plus. Donc, si ce débat, avec quelques petits excès éventuellement oratoires, permet de prendre conscience des risques que l'on prend, eh ben moi j'en suis somme toute assez preneur, mais effectivement ce ne sont pas les électeurs qui sont les ennemis de la République, mais certains programmes, et pas que certaines personnes isolées, certains programmes qui peuvent véritablement nous faire décrocher en termes de puissance. Imaginez la région Île-de-France, la troisième qui représente un tiers de la richesse nationale, aux mains de l'ancien patron du collectif Jeudi Noir qui était contre le droit de propriété. Mais je vais vous dire, il n'y a pas que les promoteurs immobiliers qui sont en train de trembler en attendant les résultats.
Alors,
des
journal
du dimanche.
On va refaire le débat parce que sinon on ne va pas avancer. Mais Jacques.
Oui, alors juste pour conclure sur ce thème, il est tout à fait exact que leur politique est sectaire. Ça, nous le savons et qu'elle est décalée par rapport aux réalités. Maintenant, puisque j'ai la parole, je l'interroge.
Allez-y, Jacques.
Et je vais faire un coup de gueule sur la prise de bec entre Dupond-Moretti et Darmanin. Alors, vous allez me dire, c'est la discorde chez l'ennemi, entre guillemets, ou chez l'adversaire, n'exagérons pas. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Et ça justifie le rejet du politique. Parce que cette prise de bec de deux ministres d'un même gouvernement attise, je dirais, le rejet de ce qu'est la responsabilité politique. Et la responsabilité politique, c'est la cohérence. Or là, on voit véritablement qu'ils sont en train de s'étriper d'une manière totalement étonnante et qu'ils attisent le rejet du politique. Donc ça dépasse même, je dirais, le sort de ce gouvernement qui est finissant. Cela incrémente.
Encore un an, Jacques, encore un an.
Non, ça ne va pas aller plus loin. Il y a une crise, mon cher
Est-ce
ami,
qu'on va
il y a une
remanier
crise de régime qui est patente.
Non, donc, mais écoutez,
c'est la raison pour laquelle
Attendez, Jérôme, laissez finir Jacques et Jérôme, je vous donne la parole juste après.
C'est un coup de gueule parce qu'en réalité, cette prise de bec va au-delà du sort de ce gouvernement.
Bah, bon, il y a toujours eu des prises de bec dans les gouvernements, non
c'est, Jacques, oui.
Ah oui, mais là, jamais vu.
La mémoire courte, mais si. Jacques a la mémoire courte. Souvenons-nous du jeu des cides, il exécute.
Maintenant.
Souvenons-nous du jeu des cides, il exécute du 14 juillet entre Jacques Chirac, président de la République. C'était pas un ministre, c'était président de la République.
Mais il a rappelé alors.
De l'intérieur, Nicolas Sarkozy. Je décide, il exécute. C'était
oui,
pas
et le alors. Prix, hein.
C'était pas une
Jérôme,
attendez pas tous en même temps.
Souvenons-nous des affaires entre Villepin et Nicolas Sarkozy qui déstabilisaient complètement le gouvernement et la République. Mais... L'affaire Clearstream, c'était pas une prise de gueule entre deux ministres, c'était bien plus grave que ça.
Mais cela n'excuse pas. Cela n'excuse pas.
Alors,
attendez Jacques.
Des affaires comme ça, ça dégoûte les gens. Les affaires Clearstream, les affaires.
Alors écoute-moi bien.
Ça participe du dégoût des gens pour la.
Oui, mais alors. Premièrement,
prise de bec entre deux ministres, j'ai pas l'impression.
Non.
Alors, on va laisser Jacques répondre, Jérôme. On va laisser Jacques répondre, Jérôme.
Tu es aveugle.
Jacques Méard.
Ce qui s'est passé dans le passé ne justifie pas ce qui est maintenant.
Mais enfin,
on n'a jamais vu des prises de bec aussi violentes.
Aussi violentes. Mémoire courte.
Mais non, dis non.
De la lutte Villepin.
Moi, je suis gaulliste, je ne suis pas pétiniste.
Tu étais au centre du dispositif, tu te souviens très
Jérôme.
Bien. C'était d'une violence.
Jérôme. La mémoire courte. Jérôme et Jacques, parce qu'il faut que nos auditeurs puissent vous entendre. Sinon, avec
Alice. Que vous dénonciez tout à l'heure.
Là, vous vous invectez.
Soyons sérieux.
Est-ce que.
Oui, mais oui.
Bah toi, est-ce que sérieux, tu ne serais pas LRM ?
Là, je suis plutôt, pour ma part, je suis plutôt d'accord avec Jérôme. Je pense que la Macronie résiste plutôt bien en termes de maintien d'une certaine cohérence, notamment au niveau parlementaire, parce que lorsque on se souvient des années Hollande, évidemment, ça prenait l'eau de toutes parts et les insoumis de la majorité hollandaise ont fait échouer largement François Hollande. Donc, au niveau de la Macronie et d'En Marche, effectivement, il peut y avoir quelques prises de bec entre ministres, mais grosso modo, ils arrivent à maintenir une certaine unité et c'est
ça
presque
se voit pas un moment nationale.
On voit quand on voit les échecs cuisants qui se multiplient.
C'est une vision bizarre. Ils n'arrivent même plus à faire passer au vote directement les amendements.
Oui,
le dernier en date sur l'aide aux handicapés. Oui. Le gouvernement est obligé de faire ça sur un vote bloqué parce que justement, dans le groupe En Marche, nombreux étaient ceux, les députés d'En Marche, qui allaient voter les amendements de toute l'opposition.
Mais combien valent ça-t-il?
Alors, arrêtons. Nous sommes.
Écoutez-vous parce que sinon on n'entend pas.
C'est évident, avant la prochaine présidentielle et avant les prochaines législatives. Mais le groupe En Marche en tant que structure unitaire n'existe plus. C'est tous les jours qu'on le voit. C'est
mais
une évidence.
Fois,
c'est pas, c'est comme c'est pas les premiers à qui c'est arrivé. Hein. Ça arrive à d'autres.
Rappelle-moi combien de fois Manuel Valls a utilisé l'article 49
oui.
fois quand il.
Mais je suis d'accord, moi merci. Pas
des
de problème, Jérôme.
De fois,
c'était tout aussi incroyable.
Et Rocard.
Jacques Mien.
Oui, alors Jérôme est bien bavard.
Castex ne dirige plus rien, tu le sais bien.
Attendez, il est un peu seul contre tous, là. Jacques Mien.
Michel et Jérôme, vous êtes véritablement aveuglés. C'est pas possible. Regardez un peu ce qui est en train de se passer. C'est que aujourd'hui, on voit bien que cette majorité a alimenté le MoDem à côté et il y a eu tout un tas de fuites dans cette majorité hologramme qui n'en est pas une. Et que aujourd'hui, la raclée que s'est prise les LRM dans toutes les Bien élections sûr. Est manifeste d'un échec total. Alors, arrêtez d'habiller de votre volonté idéologique et sectaire une réalité.
On n'a rien de sectaire, soyons sérieux.
Jérôme, écoutez-vous, parce que sinon, avec les. Comme on est à distance, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, désolé, mais il faut effectivement qu'on arrive à s'entendre.
La mauvaise foi de Jérôme est totale.
Ah, on va bientôt des ennemis de la République.
Michel, pour terminer sur ce sujet-là, et après on passera à la mobilisation du deuxième tour.
Je critique très souvent la politique gouvernementale et je vais en parler dans un instant avec les, si vous me permettez, avec les masques. Mais il est vrai que je pense vraiment, même si la majorité présidentielle a perdu quelques députés en route depuis 2017, ils sont pas loin ils n'ont plus à eux seuls de majorité suffisante pour faire certaines lois. Mais enfin, par rapport aux expériences à l'expérience des années Hollande, je disais qu'il résiste plutôt bien. Mais là, je parlais pas du fond de la politique gouvernementale. Je parlais du fait que la majorité présidentielle arrive à peu près à se maintenir. Après, évidemment, on entrera dans la dernière ligne droite du quinquennat Macron. Et là, ça risque de trembler beaucoup plus.
On prédit, il se dit que peut-être une prise de parole, parce que pour l'instant, Emmanuel Macron n'a toujours pas commenté les résultats du premier tour des départementales ni des régionales. Peut-être prise de parole début juillet et peut-être un remaniement en vue, en tous les cas, un technique. C'est ce qui se dit pour l'instant du côté de l'Élysée. On va accueillir dans un instant un autre auditeur qui attend et qui patiente au 0-826-300-300 et avec vous quatre, Jacques Myard, Jérôme Dubu, Jean-Luc Benamias, Michel Taube, nos débatteurs du jour. On va s'intéresser à ce second tour des régionales. Est-ce qu'on peut croire à une remobilisation, puisqu'on le disait tout à l'heure, seulement 36% des Français disent avoir l'intention de se rendre aux urnes dimanche dans deux jours pour ce second tour des régionales et des départementales. C'est un sondage IFOP pour le journal du dimanche. On en parle avec vous et nos débatteurs. À tout de suite.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Allez-vous nous appeler 0-826-300-300 pour débattre avec nous et nos débatteurs du jour, Jacques Myard, Jérôme Dubu, Jean-Luc Benamias, Michel Taube. On va retrouver dans un instant Christian qui nous a appelé au 0-826-300-300 depuis l'endroit sublime de la ville d'Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais Michel, il y avait un coup de gueule que vous vouliez porter aussi sur cette... alors pas contre la filière française qui s'est mise à fabriquer des masques, mais contre le fait qu'on les laisse un peu sur le bord de la route aujourd'hui, Michel.
Effectivement, le jour où le Premier ministre annonçait que le port du masque en extérieur n'était plus obligatoire, le syndicat des fabricants français de masques, qui regroupe une trentaine d'entreprises, a poussé un coup de gueule pour dire que le code des marchés publics n'a évidemment pas été modifié et la France continue à acheter de manière massive des masques en Chine, pour privilégier les prix les plus bas. Et il y a une trentaine d'entreprises aujourd'hui en France qui se retrouvent en danger parce que, évidemment, il va y avoir moins de consommation de masques dans les mois qui viennent, mais surtout, il n'y a pas de soutien de l'État. Il y avait 3,5 millions de masques qui étaient fabriqués en France il y a un an et demi. On en est aujourd'hui à 100 millions par an. Mais c'est encore les Chinois qui trustent l'essentiel du marché. C'est quand même pas normal et ça montre encore une fois qu'au-delà des paroles publiques et des discours communicationnels du chef de l'État, on se rappelle de sa visite au mois d'avril dernier dans une entreprise qui fabriquait des masques, et ben l'État n'est pas aux côtés de ses PME et de ses entrepreneurs et c'est bien dommage.
Alors, ceci explique peut-être cette démobilisation toujours de cet électorat pour le deuxième tour des régionales. Seulement 36% des Français disent avoir l'intention d'aller voter dimanche pour le second tour. C'est un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Petit rappel, ils étaient 33% seulement à avoir voté dimanche dernier au premier tour. En 2015, on était à 58% de votants au deuxième tour des régionales. Donc, on voit l'effondrement de la participation. Au 0-826-300-300, on retrouve Christian. Bonjour Christian.
Bien, bonjour à vous.
Bonjour Christian.
Vous avez raison, Anglet, c'est sublime.
Ah ben oui, mais oui, tous à Anglette. Christian, est-ce que vous avez voté? Est-ce que vous irez voter dimanche?
Alors, moi, je vais pas, j'ai 66 ans, je vote. C'est un droit que nous avons acquis, évidemment que je vais aller voter.
Mais Christian, est-ce que vous avez un haut-parleur avec la radio allumée à côté? Est-ce que vous pouvez la couper?
Voilà, c'est bon.
Ah, super.
Moi,
allez, très
donc,
bien.
J'ai très peu de temps pour, je pense, exprimer ce que j'ai exprimé, alors je vais aller très très vite. L'abstention, il faut, je suis un Français lambda, donc j'écoute ce que les gens racontent, j'écoute le dernier personne qui a parlé à votre téléphone, à la radio, pardon, qui est de En Marche. Quand on prend une fessée comme ils ont pris la dernière fois, c'est très très étonnant de les entendre encore chanter et de continuer à dire oui mais Hollande, oui mais Louis XIV et Louis XVI. C'est bon, une fessée, c'est une fessée. La deuxième sera au mois de mai. D'autre part, comment voulez-vous que les gens aillent voter? Regardez un petit peu la situation aujourd'hui dans les médias, la plupart du temps. Vous délibérez normalement, on va dire ça, entre guillemets. Mais on a entendu que le RN contre machin, le RN contre truc. Le débat, on va recommencer avec les gens qui existaient avant, les Xavier Bertrand, les Pécresse, on les a connus, on sait ce que c'est. Macron, c'est mort, on a vu, c'est les Benalla, les machins, les trucs. On ne peut plus savoir. Alors les gens qui n'ont pas envie de voter RN, bah déjà, un, ils voteront pas. Mais ceux qui vont voter RN, je voudrais juste signaler une chose, ce n'est pas tous des gens qui descendent de la rue avec des machettes, n'est-ce pas? Je crois que ça a changé depuis et que la politique aujourd'hui, elle est autrement. Mmh. Et peut-être que les Français veulent une politique autrement. Mais tant qu'il y aura des débats comme j'ai entendu ce matin, d'accord, les gens n'iront pas voter. Car il n'y a rien qui ressort de l'envie de le faire. Quand on envoie 5 ministres dans le département juste pour battre le RN, c'est une foutaise. Et en plus, ces gens-là, ils ont pris une branlée, excusez-moi le terme, et ça ne les dérange pas de continuer leur politique. Tant qu'on aura ça, moi j'ai 5 enfants, je discute avec eux, ils n'iront pas voter. Car ils disent la même chose que je suis en train de vous dire en tant que lambda, Français lambda. C'est un problème politique. C'est pas qu'un problème de se déplacer. On a dit oui, il y a du soleil, oui. Non, mais attendez. Les gens ne sont pas fous quand même. Ils connaissent quand même leurs droits civiques. Donc, tant qu'il y aura une lutte totale, j'ai entendu les mots comme nazi, machin, faut arrêter tout ça. Parlons normalement, respectons les gens qui votent, quelle que soit leur politique. La problématique, vous le savez comme moi, depuis le début des campagnes, on a entendu sur toutes les radios, excusez-moi, je prends juste 2 minutes, qu'on a entendu sur toutes les radios et sur tous les débats, on a fait de l'anti-RN. On a entendu que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Merci Christian pour ce commentaire et ce coup de gueule aussi. Et vous parliez du Rassemblement National, on va en parler dans un instant, mais qui se retrouve aussi quelque part pris dans ce problème et ce piège qui est finalement politique et démocratique, qu'est l'abstention. Alors, mes chers débatteurs, comment est-ce que cette mobilisation entre les deux tours, j'imagine que dans tous les staffs politiques, on savait très bien qu'entre le premier et le deuxième tour, ça allait être difficile de remobiliser les troupes. Mais par exemple, est-ce qu'il y a des réponses techniques qui peuvent être apportées pour les prochaines élections? On pense à la question du vote blanc, la vote par procuration, le vote par Internet, l'obligation de voter. Est-ce que tout ça sont des gadgets avant tout, selon vous? Qui veut commencer?
Je veux bien commencer, si vous voulez.
Oui, Michel.
D'abord, un point sur l'abstention, parce que moi, je ne crois pas du tout à une remobilisation entre les deux tours. Je crois qu'on aura à peu près, peut-être un ou deux points près, la même participation pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le début des vacances, donc il y a beaucoup de gens qui vont partir. Deuxièmement, il n'y a plus d'enjeu. À part en PACA et en Pays de Loire, tous les sortants vont être réélus à peu près. Donc il n'y a plus que 2 régions sur 13 où il y a un enjeu. Et troisièmement, il y a un certain nombre de listes qui ont disparu. Toutes celles qui n'ont pas fait 10% des exprimés ont disparu ou elles ont fusionné. Et donc, l'offre politique est très restreinte par rapport au premier tour. Ce qui me fait dire qu'on aura peut-être 1 ou 2 points de participation supplémentaire, mais vraiment pas plus. Mais l'abstention, c'est un problème que l'on connaît depuis des années. Alors là, on a atteint un degré invraisemblable dans des élections régionales, mais pour la première fois sous la Ve République, en 2017, les élections législatives ont constaté que les députés qui avaient été élus ont été élus avec une abstention qui était supérieure à la participation. On avait 52% d'abstention et 48% de participation. Ça ne s'était jamais vu pour des législatives. Donc c'est un phénomène structurel qui s'est aggravé effectivement depuis 2-3 ans. Alors il y a eu la crise, il y a eu des tas de choses, la crise sanitaire, etc. Mais il y a des moyens techniques effectivement d'augmenter un peu la participation. Je pense au vote par correspondance, éventuellement au vote par Internet, etc. Si c'est sécurisé, mais ça ne suffira pas. La crise démocratique, ce n'est pas par des moyens techniques qu'on va la résoudre. La crise démocratique, elle est profonde, elle est structurelle. Et aujourd'hui, l'offre politique globale et les partis politiques ont une responsabilité, les médias aussi. Parce que qu'est-ce qu'on a entendu pendant cette campagne des régionales sur les médias? On a entendu que des faits divers. L'histoire de la Dordogne pendant 48 heures, toutes les chaînes d'infos n'ont parlé que de ça. On n'a jamais parlé de débat de fond concernant les régionales. On n'a pas parlé de transport, on n'a pas parlé de la mobilité, on n'a pas parlé du développement économique. Bref, on a un système qui fait qu'aujourd'hui, rien n'incite les gens à aller voter, c'est clair.
Il y a une désaffection. Bon,
alors, oui, allez-y, Jacques Myard. Oui, moi, je suis un peu dubitatif sur les médias, mais c'est normal, oui, je vais défendre ma corporation.
Il y a une désaffection à l'égard de la démocratie, car elle est jugée comme étant sans doute le meilleur des systèmes, excepté tous les autres, mais les Français lui reprochent de ne pas être efficace et de ne pas être capable de répondre aujourd'hui aux défis qui sont ceux de la France. On reproche également aux politiques de ne pas tenir leurs promesses.
Je suis d'accord avec vous, Jacques. Je suis d'accord avec vous, mais moi, il y a quelque chose qui m'étonne quand même de ce qu'on entend et on va dire, de l'évolution de ces derniers mois. On a entendu beaucoup parler de dictature sanitaire, d'état répressif. Et donc là, on avait l'occasion finalement de manifester quelque chose. Et c'est la politique de quelque part. Est-ce que c'est une politique de la chaise vide, Jacques?
Non,
comment vous analysez ça?
Premièrement,
de la part de l'électeur.
Vous allez voir ce qui va se passer aux prochaines présidentielles. Je suis convaincu qu'il y aura une forte participation parce que c'est un enjeu central et qui détermine l'ensemble de la politique. Mais les dernières élections présidentielles, il y a eu une moindre participation pour des raisons de dépit, parce qu'il y a eu l'affaire Fillon qui a démobilisé un certain nombre de nos électeurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu dans le passé des décisions qui ont été prises où notamment, et je vais vous le dire, je vais mettre les pieds dans le plat, on vote par un traité, par un référendum, on rejette le traité et on resserre derrière quelque chose qui s'apparente au traité rejeté. Ça, véritablement, sur l'opinion publique, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent « on se fout de nous », même si le traité de Lisbonne n'est pas le même que le traité constitutionnel. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nos concitoyens, dans des enjeux, des départementales, des régionales, où ce n'est pas bien perçu parce que la région est loin, elle n'est pas de proximité, le département est ancré, mais il n'en demeure pas moins que la redistribution des compétences, les Français s'y perdent. Donc, il y a de la pédagogie à faire, il y a une simplification, moi je vais vous dire. Il y a un certain nombre d'élections qui sont carrément supprimer et les faire d'une manière différente. On a 7 élections en 6 ans, c'est excessif, il y a une surdose d'élections et il faut savoir reconstruire un système plus simplifié.
Alors certains en réclament plus pour plus de démocratie. Michel, parce qu'on va écouter la parole de tout le monde. Michel Taubin.
Alors, quand dimanche dernier, à midi, lorsque le taux d'abstention a été...
Rapidement, Michel, ouais.
Oui, pour midi, il y avait un décrochage de 5 points. Et à 17h, le décrochage il était massif par rapport aux précédentes élections. Et là, je me suis dit, les extrêmes vont l'emporter parce que les Français en colère vont voter massivement et les démocrates, entre guillemets, vont rester chez eux. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. C'est le contraire qui s'est passé. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les républicains et les socialistes et les présidents de régions et de départements sortants s'en sont plutôt bien sortis. C'est qu'en fait, ce sont les Français en colère qui ne sont pas allés voter. Ce sont les Français du Rassemblement national, de l'extrême gauche qui ne sont pas allés voter. Et effectivement, je ne pense pas que d'ici dimanche, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme, il ne va pas y avoir un sursaut de participation. Je crains même le contraire, notamment parce que, prenons les élections départementales, faisons quand même notre mea culpa dimanche soir. dans les soirées électorales, les départements n'ont même pas été évoqués. Ouais. Qui sait aujourd'hui quels sont les résultats dans les, au premier tour du départemental?
Ouais, enfin, c'est
quand même extrêmement grave qu'en termes d'information, le travail minimum n'ait pas été fait d'information.
Oui, le non, sur France 3, dans la PQR. Sur la PQR. Oui, mais on a une zapette, Michel. Je suis désolé, on peut aussi aller basculer sur sa France 3 région. Désolé. Jean-Luc. Je trouve quand même qu'on ne va pas non plus servir sur
un... C'est ça qu'on a un peu parlé.
Ouais.
Beaucoup. C'est une millefeuille institutionnelle. Ça devient relativement incompréhensible. Soyons sérieux, par exemple. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas de départemental à Paris. Mmh. Pourquoi il y a des départementales dans les grandes villes françaises? On ne sait pas qui sont nos conseillers départementaux. On le sait en milieu rural. Très bien, en milieu périurbain, on connaît son conseiller départemental, mais au niveau départemental dans les grandes villes, on ne connaît pas. Et puis les gens ne comprennent plus rien au système. On peut se maintenir à plus de 10% des votants au régional, mais pour les départementales, il faut 12,5% des inscrits aux élections, enfin des inscrits sur les listes électorales. Une simplification, je ne suis pas le seul à le dire, tous les présidents de la République l'ont dit pendant toutes les campagnes, on a une difficulté complète en France à faire ces simplifications. Et après, je le dis aussi, hein, les Français et une bonne partie d'entre eux qui ne votent pas pour les formations dites démocratiques au sens large du terme, on aura le bol de voter pour ne pas exister politiquement dans les institutions. Quand on fait 20% avec telle ou telle formation politique et qu'on a deux députés, quand on fait 15% et qu'on a zéro député...
Là, précisément, on est à la proportionnelle.
Mais où ça, la proportionnelle?
Régional, on est à la proportionnelle.
Mais c'est une fausse proportionnelle. Michel, Jérôme, pardon, c'est pas une proportionnelle intégrale. C'est pas une proportionnelle...
C'est pas intégrale, mais enfin, tu la représentes.
Pourquoi sommes-nous le dernier... Pourquoi sommes-nous l'un des derniers pays européens dans l'Union européenne à ne pas avoir au moins une représentation réelle des populations qui votent? À ce niveau-là, c'est évident qu'un certain nombre de gens se disent « Mais mon vote sert à rien, je l'ai perdu. » Voilà.
Mais pas pour les régionales.
Je ne simplifie pas. Il y a plein de raisons sur l'abstention et ainsi de suite. Mais au moins une est certaine. Quand on vote, il faut que son vote, il veut que le citoyen ou la citoyenne pense que son vote serve à quelque chose. Et pour l'instant,
c'est le cas au régional. C'est le cas au régional.
Mais non, c'est pas le cas au régional. Tu vois bien qu'il y a des listes qui ont fait
8%, 10%,
qui ne seront pas représentées. Absolument. Et qui ne seront pas représentées. Je souligne juste, en Nouvelle-Aquitaine, il y aura une quinquagulaire. Hein. 5 listes pour ce deuxième tour, dimanche. Donc, on va continuer de parler de ces régionales dans un instant. On va s'intéresser à une des régions qui attire tous les regards. C'est celle de la région PACA. Est-ce que le Rassemblement national peut gagner? Et ça cacherait le résultat global que le Rassemblement national a récolté lors de ce premier tour. On voit ça dans un instant avec nos débatteurs sur Sud Radio et vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Allez, on est ensemble encore un petit quart d'heure avec vous au 0826 300 300 et avec Jacques Myard, aujourd'hui maire LR de Maison Lafitte, Jérôme Dubu, membre de La République En Marche, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des Droits de l'Homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Michel Thau, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Alors, on va dérouler notre deuxième sujet politique des régionales avec cette question: est-ce que le RN peut l'emporter dimanche en région PACA? 36% des suffrages au premier tour. Le candidat Thierry Mariani peut-il l'emporter? Le sondage IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro, donne Renaud Muselier 51, Thierry Mariani 49. On sait ce que donnent aussi les sondages. Alors, est-ce que Thierry Mariani, selon vous, va être désormais le seul espoir du Rassemblement national pour masquer, on va dire, ce mauvais résultat des régions? Michel.
Écoutez, moi je pense que moi personnellement j'ai toujours été partisan, tout en étant très très critique de la politique gouvernementale, partisan d'un front républicain pour faire barrage au Rassemblement national. Je pense que celui-ci va jouer et permettre à Renaud Muselier de s'en sortir in extremis. J'ai beaucoup plus d'inquiétude sur le deuxième front républicain que j'appelle mes voeux et qui concerne la région Île-de-France, où le maintien de La République En Marche à mon avis, est un très mauvais, une très très mauvaise idée de l'AREM et pourrait faire gagner les insoumis et les écolos pastèques. Voilà. Mais effectivement, moi, je pense que en PACA, Renaud Muselier va s'en sortir. Et je ne crois pas dans les sondages parce que franchement, ils se sont complètement plantés dimanche dernier et on pourrait quand même avoir l'honnêteté de le redire et de le redire et de les écouter un petit peu moins à force d'erreurs d'interprétation lors des dernières élections.
Oui, mais Jean-Luc,
c'est ce qui est... Oui. Michel, faut arrêter avec ce poncif des écolos pastèques. Il y a les écolos de toute sensibilité.
Jean-Luc,
faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Je te le dis.
Je le maintiens. Et je le maintiens.
Tu peux le maintenir. Moi, je te dis que tout ça n'a pas de sens, même au niveau des sensibilités existantes dans l'écologie politique ou l'écologie associative. Je l'ai dit. Pour le reste, moi, évidemment que c'est serré en PACA. C'est le moins qu'on puisse dire quand on est à 51-49 dans un sondage.
Ah oui, c'est l'épaisseur du trait, ouais.
Et Frédéric Dabi le dit lui-même à chaque fois, il ne cache rien, hein. Il dit voilà, c'est ça qui sort de ce qu'on a dans nos enquêtes. Maintenant, évidemment que tout peut arriver. Alors, est-ce qu'il y aura un sursaut chez les électeurs du Front National, du Rassemblement National, qui, on l'a vu dans les sondages, enfin dans les enquêtes, non pas sondages, dans les sorties des urnes, se sont sans doute potentiellement plus abstenus que d'autres.
Ils se sont fait engueuler.
Voilà. Mais évidemment que jusqu'à 20h, et peut-être un peu plus, parce que si on est à 51-49 à 20h, on l'a vu dimanche dernier, au départ, dans des instituts de sondage, Muselier et Mariani étaient à 33 chacun ou 32 chacun. À l'arrivée, c'est 36-32. Donc, peut-être à 21h, 22h, on le saura. Voilà.
Vous qui êtes à Marseille, Jean-Luc, vous, effectivement, vous sentez.
Ça se voit et ce n'est pas totalement nouveau sur Marseille. Je l'ai dit, ça fait deux fois que la gauche et les écolos sont obligés de se retirer pour faire passer les démocrates, pour faire passer les républicains au sens large, au sens précis du terme. Voilà. C'est ce qui, d'ailleurs, ne pousse pas au vote et ne pousse pas à faire autre chose
que
l'abstention. Parce qu'à un moment donné, quand on va voter
et que ça ne sert à rien,
c'est assez agaçant. Et
absolument.
Quand c'est agaçant, le terme est faible.
Oui. Jérôme.
Oui, un point sur PACA, et puis je reviendrai sur les sondages, parce que c'est quand même tout à fait hallucinant. On continue les bêtises qu'on a faites avant le premier tour.
Mais ça, on l'a déjà fait l'année dernière, on l'a fait l'année d'avant.
Oui, mais on continue à commenter des sondages. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on continue à en faire. Ça engraisse les instituts de sondage, c'est très bien. Bon, tout le monde a beaucoup de
Ça donne une carte postale.
Ça leur permet de vivre.
Il faut arrêter
de commenter.
Attendez, les sondages. Jérôme, on va parler de. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant le journal de midi. Jérôme, est-ce que Mariani est le seul espoir pour le Rassemblement national là?
Ah ben, c'est clair qu'il est le seul espoir pour le Rassemblement national, puisque tous les autres sont allés au tapis. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est très serré, effectivement. Une chose est sûre, c'est que si la gauche ne s'était pas retirée, il est clair que quand on voit effectivement les résultats, Mariani avait une très grande chance de l'emporter. Donc la gauche s'est retirée, ça a été une décision, à mon avis, assez salutaire, même s'ils se sont fait harakiri pour la deuxième fois. Donc aujourd'hui, tout est ouvert. Mariani peut l'emporter, Muselier peut l'emporter. Ça dépendra effectivement du taux de mobilisation. Alors, il y a des gens qui reviennent un peu à la raison, comme M. Ciotti, qui vient de déclarer, après avoir demandé l'exclusion de M. Muselier de LR, qui vient de déclarer qu'il allait tout faire pour le faire passer. Donc peut-être que ça va suffire pour faire effectivement faire passer Muselier.
Jacques, est-ce que le soutien de Nicolas Sarkozy, là, d'hier, est-ce que
Non, mais attendez. Premièrement, ce sont les gens et les habitants de PACA qui votent. Il faut quand même le rappeler. Parce que toutes les commandites d'en haut ou d'en bas, ce n'est pas ça qui fait l'élection, tant s'en faut. Alors, vous savez…
On voit l'homme de terrain.
Vous savez ce qu'on dit, puisque vous avez parlé d'espoir. Vous savez ce que dit… On dit l'espoir est un emprunt au bonheur. Donc, moi, j'attends que ça se passe, parce qu'effectivement, pour une fois, je vais être d'accord avec Jérôme, en réalité, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a entendu des gens de gauche dire que, de toute façon, ils n'iraient pas voter pour la bonne et simple raison que le choix entre Mariani et Muselier, ce n'est pas un bon choix. Donc, ils le refusent. On l'a entendu sur LCI, on l'a entendu dans trop nouveau Sénac. Donc, je crois qu'il faut raison garder, il faut attendre. Et ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Parce que les erreurs, aujourd'hui, on sait qu'ils sont à 50-50 dans les sondeurs. Bon, ben, comme je suis d'accord une fois, pour une fois avec Jérôme, cessons de commenter.
Ça fait beaucoup, là.
Non, mais là, tu vois, parce que comme de tout à l'heure, je t'ai pas loupé, je vais quand même rétablir, je dirais, un certain équilibre. Hein. Ça, c'est la politique juridictionnelle. Tu devrais savoir, un coup, ça tombe à côté, ton bien, ça tombe de l'autre.
Tu vieillis.
Et voilà. Non, je vieillis pas, mais aucune crainte de ce côté-là.
Non, il s'agit.
Et donc, on va voir, il faut attendre, mais c'est extrêmement serré. Et ensuite, on fera l'analyse de ce qui s'est passé. Ça pourrait être intéressant sur les flux, justement, et les déports et les non-reports de voix. Mais pour l'instant, c'est totalement une conjecture. Et donc, il faut se garder de sauter à une conclusion hâtive.
Merci beaucoup. Merci Jacques Myard, Jérôme Dubus, Jean-Luc Benamias, Michel Taube, les débatteurs d'aujourd'hui. On n'a pas le temps de parler de ce variant Delta. Est-ce qu'il va nous gâcher nos traités? C'est un sujet dont avec Valérie, on y reviendra la semaine prochaine. Et ces élections régionales, on les commentera sur Sud Radio dès 20h dimanche soir, bien sûr, avec les premières estimations et les premiers résultats. Et tout au long de la journée de lundi, dans les jours qui vont suivre, évidemment, dans un instant, vous allez retrouver André Bercoff. Moi, je vous souhaite un bon appétit, une très belle journée et je vous dis à bientôt.